La Bible nous dit que la loi était venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec le Seigneur Jésus. Et le principe de la loi était que pour être reconnu juste devant Dieu, il fallait que tous les commandements soient accomplis. Donc sur une liste de 10 commandements, si on péchait contre un seul, eh bien, la loi nous rendait coupables de tous. Donc pour être considéré juste devant Dieu, il fallait accomplir toute la loi. Or, la Bible nous dit que cela était une chose impossible à la chair. Le Seigneur avait renfermé les hommes d'une certaine manière afin que l'homme puisse s'humilier et comprendre que sans Dieu, il ne peut rien faire, que sans Dieu, il ne peut pas accomplir sa volonté. Donc il fallait que toute la loi soit accomplie pour être considéré comme juste. C'est-à-dire que dans tous les commandements qui étaient présentés, on ne pouvait pas en isoler un. On ne pouvait pas en mettre un de côté, on ne pouvait pas en retirer un. La loi était un ensemble de préceptes, un ensemble d'ordonnances données par Dieu dans lequel l'homme devait vivre pour être considéré juste devant le Seigneur. Mais cette loi, pour certaines personnes, constituait aussi une espérance. L'espérance, c'est-à-dire d'avoir, en tout cas, un objectif, d'avoir une certaine voie à suivre, d'avoir une direction. Ça représentait une direction pour des personnes. C'est-à-dire qu'à partir de la loi, ils savaient ce qui était agréable à Dieu et ce qui ne l'était pas. Donc ça permettait d'avoir un repère pour être dans la voie du Seigneur. Mais la Bible nous dit que nous sommes sous la grâce. Cela ne veut pas dire que la loi est annulée. Cela dit que le Seigneur a accompli ce que nous ne pouvons pas faire. Il a accompli ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes libres de pécher, que nous sommes libres de vivre dans l'impudicité, dans le mensonge ou dans toutes sortes de comportements qui ne sont pas agréables à Dieu. La loi est toujours valable, mais elle a été accomplie par le Seigneur. Et ce que le Seigneur a accompli pour nous devient pour nous aujourd'hui l'espérance de connaître le plan de Dieu, de connaître la voie agréable à Dieu. La parole, l'évangile que le Seigneur nous a laissé constitue pour nous l'espérance que les choses seront différentes un jour, que tout ne sera pas toujours souffrance, que la galère ne sera pas toujours, que la mort ne sera pas toujours, mais vient des temps où nous serons dans le bonheur. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit, « Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous retirer, parce que nous avons reçu l'évangile. » Et dans cet évangile-là, nous voyons le témoignage du Seigneur, nous voyons les œuvres qu'il accomplit, et nous voyons aussi les paroles qu'il nous a laissées. Et puisque ce tout-là constitue pour nous une espérance, cela veut bien dire qu'on ne peut pas isoler un verset, qu'on ne peut pas enlever des passages qui nous dérangent. Mais dans l'ensemble que le Seigneur nous a laissé, c'est dans cet ensemble-là que nous avons la vie et que nous trouverons la paix. C'est pourquoi la Bible clôture dans le livre d'Apocalypse en nous montrant clairement que celui qui va retirer un passage de ce qui est écrit, les fléaux de ce livre s'accompliront sur lui. Le Seigneur lui-même dit qu'il n'y a pas un iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, qui ne passera de sa parole. Tout doit s'accomplir. Donc le Seigneur montre par là que l'ensemble de la parole qu'il nous a laissée, chaque passage, chaque verset a son importance. Et c'est dans cette importance-là, de tous ces passages-là, que se trouve notre vie, que se trouve notre salut, que se trouve notre espérance. Maintenant, il y a une autre réalité. C'est que le Seigneur nous annonce que dans la fin des temps, il y aura des faux docteurs. Dans la fin des temps, il y aura des faux serviteurs qui vont chercher à altérer la parole de Dieu, qui vont chercher à la modifier, qui vont chercher à la tordre, qui vont chercher à la dissoudre. Et de quelle manière vont s'y employer? De la même manière que Satan avait essayé en tentant le Seigneur dans le désert. Il est écrit que si tu tombes, on enverra des anges pour te sauver. Il a utilisé la parole en tordant les Écritures pour tenter le Seigneur. Mais le Seigneur connaissait aussi la parole. Et il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur a répliqué à chaque fois par la parole, mais Satan lui-même a utilisé la parole en tordant le sens des Écritures. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tant de sectes qui naissent, tant de sectes qui sont venues avant même que nous soyons, pour certaines qui demeurent jusqu'à aujourd'hui, avec une interprétation de l'Écriture tordue volontairement pour éloigner les gens de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il s'est adressé aux pharisiens, il leur a dit, vous-même, vous n'entrez pas dans le royaume et vous fermez la porte à ceux qui veulent y entrer. Vous tordez les Écritures, vous êtes assis sur la chair de Moïse, mais vous ne pratiquez pas. Il n'enseignait pas au peuple à faire ce qui était conforme. Et le Seigneur a dit, vous êtes hypocrites. Vous tordez le sens des Écritures pour empêcher que certains entrent dans le salut, dans le repos de Dieu. Et cette réalité que le Seigneur avait annoncée, qui se vivait déjà à son époque, se vit aujourd'hui de toutes sortes de manières. Nous n'allons pas parler de tous les points de fausse doctrine, mais nous allons parler d'un point qui est élémentaire, qui est important. Nous prenons premièrement Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, à partir du verset 6, nous voyons que ce que le Seigneur avait déjà dénoncé au temps des pharisiens, l'apôtre Paul a continué à le dénoncer encore. Au verset 6, Galates 1er, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La Bible nous dit que Jésus-Christ est lui-même l'amen de Dieu. Il est venu mettre un point final à la volonté de Dieu en ce qui concerne le salut de l'homme. Il n'y a pas un salut en aucun autre nom. Et il n'y a pas d'autre salut en dehors de l'évangile, de la parole que le Seigneur nous a laissée. Il y a une certaine religion qui dit que, mais Jésus-Christ lui-même a dit qu'un autre prophète plus grand encore viendra après lui. Or l'apôtre Paul est formel dans ce passage. Il dit que l'évangile que vous avez reçu, une fois pour toutes, si une autre personne vous dit le contraire, que cette personne soit maudite, soit vouée à la destruction. Il n'y a pas un autre évangile après le Seigneur. Il n'y a pas un autre apôtre, un autre prophète comme Jésus-Christ après lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur nous montre que si nous croyons en ses paroles, il dit, et si vous les mettez en pratique, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous marchons selon les voies de Dieu, telles qu'il nous les a données, telles qu'il nous les a prescrites, sans ajouter ni retrancher. Et voilà le constat que l'apôtre Paul fait. Il dit, mais Galates, mais au plus loin, il dira, mais vous êtes dépourvus de sens. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné au point que l'évangile que vous avez reçu, premièrement, vous cherchez à vous attacher à autre chose? Il dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait d'autres écritures. C'est que l'écriture que vous avez reçue, certains la tordent pour vous troubler et vous emmener dans l'erreur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment l'ennemi cherchera à nous tenter, à nous faire sortir de l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas en inventant un autre évangile. Ce n'est pas en créant une autre Bible. Mais c'est en utilisant les écrits que nous avons et en tordant le sens. En donnant de fausses interprétations qui vont satisfaire la chair, qui vont amuser le monde, qui vont amener le monde, les chrétiens, à s'attacher à la terre et à ne plus avoir la vision du ciel, à ne plus demeurer dans l'obéissance selon Dieu. Et voilà les Galates, la voie qu'ils avaient prise, dépourvue de sens parce que des hommes se sont glissés au milieu d'eux pour prêcher un faux évangile, pour tordre les Écritures. Et notre thème ce matin, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Beaucoup trop de religions aujourd'hui, de mouvements, parlent de Jésus-Christ non pas comme les Écritures nous l'ont présenté, mais comme eux veulent le présenter, en fonction de l'intérêt que ces sectes ont, en fonction des intérêts que ces faux prophètes ont, ils vont tordre les Écritures et changer même l'identité de Jésus-Christ. Or, nous savons que notre salut passe uniquement que par Jésus. Il est écrit que nous n'avons reçu aucun nom sous le ciel. Il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Aucun nom nous a été donné parmi les hommes si ce n'est le nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est lui seul qui est le salut. Or, si le Seigneur est le salut, il est par ce qu'il est. Et ce qu'il est, la Bible nous l'a dit, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Il est 100% Dieu et il est aussi 100% homme. Or, il y a des sectes aujourd'hui qui nient clairement que Jésus-Christ puisse être Dieu, qui nient clairement que Jésus-Christ puisse être le Fils de Dieu, sous prétexte que Dieu, qui n'est pas humain, ne peut pas engendrer un homme. Il limite le Seigneur dans sa puissance, il limite le Seigneur dans son identité même. Et il change la personnalité et l'identité de Jésus-Christ. Or, même si nous ne comprenons pas toutes choses, même si nous ne savons pas toutes choses, ce que nous pouvons connaître et savoir, c'est ce qui nous est rapporté dans les Écritures. Et combien même nous n'avons pas compris par quel processus, par quel mystère le Seigneur ait pu faire que les choses soient ainsi, nous croyons simplement parce qu'il est écrit. La Bible nous dit que nous connaissons en partie, mais nous connaîtrons tout lorsque nous serons avec le Seigneur. La Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Notre part à nous, c'est de nous contenter de ce que Dieu nous a révélé, de ce que Dieu nous a donné. Dans ce qui nous dépasse, faisons confiance au Seigneur, que ce n'est pas utile certainement pour notre salut. Faisons confiance au Seigneur qu'il nous révélera au moment où il le faudra. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut pour demeurer dans la voie de Dieu. Ce que nous ne connaissons pas, considérons bien aimé que ce n'est pas un obstacle pour nous. Pour nous, ce qui est évident, c'est ce qui est écrit clairement dans la parole de Dieu. Ce n'est pas par prophétie, ce n'est pas par songe que nous avons la révélation claire de Dieu, mais nous l'avons au travers des Écritures. Alors si la Bible nous dit que Jésus-Christ même est Dieu, croyons que les choses soient ainsi. On nous dit qu'il est aussi le Fils de Dieu, croyons que les choses soient ainsi. On nous dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité, croyons que les choses soient ainsi. Nous ne pouvons pas l'expliquer comme nous expliquerons des mathématiques, parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, mais dans l'esprit, nous croyons que cela est vrai, parce que Dieu l'a dit, parce qu'il est écrit. Nous lisons un autre passage dans 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. On s'arrête là dans un premier temps. L'apôtre Paul nous dit que beaucoup qui sont dans l'erreur aujourd'hui, beaucoup qui font naître de fausses doctrines, beaucoup étaient au milieu de nous. Mais la Bible dit qu'ils n'étaient pas des nôtres en réalité. Nous avons parlé dernièrement de la question de l'infiltration et c'est le même thème qui continue parce que c'est une réalité. Et l'apôtre dit, mais il faut que ces choses arrivent afin que l'on fasse la différence et que l'on sache véritablement s'ils étaient des nôtres ou pas. Bien souvent, il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des situations que nous avons du mal à croire lorsque nous nous regardons les uns les autres d'une manière charnelle. Nous allons regarder la gentillesse de l'un, nous allons regarder la disponibilité de l'autre, mais cela ne reflète pas la vérité, la réalité que Dieu connaît celle qui est dans le cœur. Alors puisque le Seigneur veut nous ouvrir les yeux et nous rendre conscients de ces réalités-là qui sont même décrites dans la parole de Dieu, il est obligé de permettre certaines situations afin que celui que tu croyais être ton frère, par ses œuvres et par son témoignage, nous puissions clairement discerner qu'en réalité, il n'était pas des nôtres. Il y a dans la volonté de Dieu le souci qu'un enfant de Dieu soit capable de discerner entre le faux et le vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit « Je vous le dis à votre honte ». Il n'y a donc parmi vous aucun homme qui soit capable de porter un jugement, c'est-à-dire de faire la différence entre un frère lorsqu'il y a un conflit. Vous prenez des païens pour vous justifier, vous prenez des païens pour plaider en votre cause. Il dit « Mais c'est à votre honte ». En quelque sorte, vous devez être capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit que, mais il faut que ces choses arrivent afin que de nos yeux, nous puissions voir clairement que celui-ci n'est pas du Seigneur. Mais comment porter un bon jugement? Comment avoir un bon discernement? Ce n'est rien d'autre qu'en se référant aux Écritures. Nous ne sommes pas en train de juger les faiblesses que les uns et les autres nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas en train de juger le fait que tel est tombé aujourd'hui et que par la grâce de Dieu, il se relèvera. Nous sommes en train de parler des choses qui vont clairement à l'encontre de la parole de Dieu. L'apôtre nous dit que c'est cela l'esprit de l'Antéchrist. Donc ce sont des personnes qui combattent par leur prédication, par leur message, qui combattent clairement le Seigneur, qui combattent clairement l'Évangile. Et il faut que leur message aussi soit vu d'une manière claire afin que nous ne soyons pas un pied dehors, un pied dedans, c'est-à-dire que nous ne soyons pas partagés, mais que nous ayons une position fixe, une position claire, que nous n'ayons pas honte ni peur de dire que ça c'est faux, que nous n'ayons pas peur de dire que tu es dans l'erreur ou bien que tu n'es pas de Dieu, parce que les choses sont évidentes. La question que le Seigneur évoque, que les apôtres évoquent, c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort, parce que le seul moyen par lequel nous pouvons arriver à la vie, c'est en demeurant dans les Écritures. Or, si les Écritures qu'on nous enseigne sont totalement fausses, alors c'est sûr et certain que nous allons tout droit vers la mort. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie. Alors, il faut que ceux qui sont faux soient clairement manifestés. L'apôtre dit, il faut que cela soit manifeste. Il faut que ça devienne clair afin que nous sachions là où nous pouvons aller, où nous ne pouvons pas aller, que nous sachions ce que nous pouvons écouter et ce que nous ne devons pas écouter. Il faut que ces choses soient claires. Cela veut dire, bien aimé, que nous ne devons pas être étonnés lorsque ces réalités sont annoncées. Nous ne devons pas être étonnés lorsque ces réalités sont manifestées. Nous pouvons comprendre parce que nous sommes des hommes, en fonction de l'attachement que nous pouvons avoir avec certaines personnes, et que demain se révèlent être des faux serviteurs, des faux prophètes, qu'il y ait une déception. Mais cette déception ne doit pas nous amener à suivre la personne sous prétexte que nous avons grandi ensemble, sous prétexte que nous avons passé du temps ensemble. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, veille sur toi, parce qu'en veillant sur toi, tu te sauveras toi d'abord et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le Seigneur a dit à ses disciples qui se réjouissaient d'avoir chassé les démons, il dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur dit encore à ses disciples, à quoi sert un homme de gagner tout le monde si lui-même perd sa vie? À quoi ça sert, bien-aimé, de vouloir suivre tel ou tel qui est dans le faux si c'est pour que nous perdions notre vie? Le Seigneur est mort pour nous et le salut que nous avons reçu du Seigneur, nous ne pouvons pas l'échanger contre quoi que ce soit. Notre vie a une trop grande valeur auprès du Seigneur pour que nous puissions, par amitié, par sympathie ou je ne sais quoi, suivre la voie qui va à l'enfer. La Bible est claire, il faut que ces choses soient manifestes. Il faut que ces choses soient évidentes. Ne soyons pas troublés lorsque nous voyons ces choses être manifestées. Nous voyons toutes sortes de choses sur Internet, nous entendons toutes sortes de faux évangiles qui éloignent les gens de la vérité. Mais la Bible nous dit aussi que dans la fin des temps, plusieurs aussi choisiront eux-mêmes leurs prophètes. Plusieurs choisiront aussi leur docteur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité. Ils ne veulent plus se conformer à la vérité. Alors, ils préfèrent suivre ce qui va satisfaire leur chair, ce qui va leur plaire, bien-aimés. Et il faut aussi que ces choses arrivent afin que l'on fasse la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est la vérité qui va départager parce que c'est par la vérité que nous serons jugés par le Seigneur. Et cette vérité doit être évidente devant nous, afin que nous puissions aussi faire un choix clair. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous ne devons pas la dissoudre ni la diluer. Disons les choses telles qu'elles sont. Si le Seigneur te pousse à parler à la personne et de dire que si tu continues, tu iras en enfer, n'ayons pas peur de parler de l'enfer. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de l'enfer. Si d'autres ne veulent pas entendre encore parler des démons, si le Seigneur t'inspire à dire, si ce que tu dis est dans la Bible, bien-aimés, il faut le dire tel que le Seigneur nous demande de le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même lorsqu'il parle aux Galates, ensuite, il dit, mais si je cherchais à plaire aux hommes, alors je ne serais plus serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas là pour donner des prédications qui vont être comme du miel dans la bouche. Si c'est comme du miel parce qu'on en avait besoin, gloire à Dieu. Mais si c'est aussi comme une réprimande, comme un coup de bâton, bien aimé, il faut le faire. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu, que sa parole soit annoncée dans toute la vérité. Nous lisons la suite. Je reprends au verset 21. « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis à la droite de mon Père. » Celui qui vaincra. L'apôtre Jean dit dans ce passage-là, « Si ce que vous avez reçu demeure en vous, alors vous serez aussi, donc dans le vrai, vous serez sauvés. » C'est ce qu'il veut dire. « Mais si cette parole demeure en vous, et la parole que nous avons reçue doit demeurer dans son intégralité, elle ne doit pas être retranchée ni ajoutée, mais telle que nous avons reçu l'évangile, telle que nous avons cru pour être sauvés, c'est cet évangile-là même que nous devons garder et que rien ni personne ne nous enlève ça. » L'apôtre dit que celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est même l'antéchrist. Qu'est-ce que nous entendons pas aujourd'hui? Des prophètes qui naissent et qui disent « Mais non, c'était moi le Christ qui devait venir. » Combien de Christ s'élèvent aujourd'hui? Combien de soi-disant messies s'élèvent aujourd'hui? Pourtant, ces choses avaient été annoncées. Mais ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'il y a toute une foule après ces personnes-là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces personnes-là. Et même des personnes, selon le dire de l'apôtre Jean, qui étaient au milieu de nous, mais qui sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc des personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont entendu la vérité, mais par souci personnel, par égoïsme, par cupidité, préfèrent suivre un homme qui se dit être le Messie. Et le Seigneur dit que celui qui nie que le véritable Christ, celui qui devait être oint, être la porte du salut, celui qui nie que c'est Jésus-Christ celui-là, que cette personne-là soit anathème. C'est un antéchrist. Pour nous, notre salut, notre espérance se trouve dans cette réalité-là aussi, que Jésus-Christ est le seul et unique Messie. C'est lui seul qui est le Christ. Avant lui, ni après lui, bien-aimé, il n'y aura pas un autre salut, il n'y aura pas une autre personne qui accomplira le sacrifice voulu par Dieu. Ce sacrifice a été accompli une fois pour toutes et d'une manière excellente par le sang de Jésus-Christ, par Jésus-Christ lui-même. C'est lui seul qui est le Christ. Et l'apôtre Jean va beaucoup plus loin. Il dit que celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'accordent notamment avec les musulmans pour dire que nous avons le même Dieu. Comment pouvons-nous avoir le même Dieu? Lorsque nous, nous savons que dans le ciel, il n'y a plus question de mari ou de femme. Alors comment notre Dieu pourrait nous dire ces choses-là? Et soi-disant, le même Dieu pourrait promettre à l'autre que quand il mourra, il y aura divers qui vont l'attendre là-bas. Ou bien il y a plusieurs paradis. Mais il faut qu'on soit clair. Comment pouvons-nous avoir le même Dieu lorsque nous, nous reconnaissons Christ comme le Messie et d'autres disent que c'était un simple prophète? Et l'apôtre Jean, que celui qui nie le Fils, tel qu'il est, tel qu'il nous l'a été présenté, n'a pas non plus le Père. Donc forcément, nous n'avons pas le même Dieu. Forcément, nous n'avons pas le même Père. Parce que notre Père à nous, nous pouvons l'atteindre en passant par celui que nous reconnaissons comme étant la porte, la véritable porte, le seul et unique sauveur, Jésus-Christ. Mais d'autres diront, non, nous pouvons arriver au Père en passant par toutes sortes de prières, en passant par toutes sortes de cérémonies. Mais comment notre Dieu à nous nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne soit glorifié? C'est par grâce que nous sommes sauvés. On nous dira quoi? Qu'il faut faire du porte-à-porte. Il faut faire du bien pour, je dirais, amasser un certain nombre de points que Dieu comptera à la fin. Alors forcément, nous n'avons pas le même Dieu. L'apôtre Jean dit que celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Jésus-Christ doit être accepté tel qu'il est, tel qu'il nous l'a été présenté, tel que Dieu l'a voulu. S'il y a un trait du caractère de Jésus, de l'identité de Jésus qui est falsifié, qui est modifié, soyons certains, bien-aimés, que là, Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Nous avons reçu une espérance et dans cette espérance-là, il y a la personne de Jésus telle qu'on nous l'a manifestée, telle qu'on nous l'a présentée. Alors si le Jésus auquel nous croyons ce matin, pour nous, n'est peut-être pas le Messie, n'est peut-être pas le Fils de Dieu, Alors, bien aimé, c'est que soit nous n'avons pas compris l'évangile, ou bien nous nous sommes tout simplement trompés de Dieu. La réalité, c'est que Jésus-Christ est le Messie, et que celui qui a Jésus a aussi le Père. Les deux sont un, le Seigneur dit. Moi et le Père, nous sommes un. Donc nous ne pouvons pas dire, je crois en Dieu, mais j'ai des doutes sur Jésus. Et c'est un langage, bien aimé, qu'on retrouve même chez certaines personnes qui se disent soi-disant chrétiennes, qui disent, j'ai une facilité à croire Dieu, mais j'ai une facilité à croire que Jésus-Christ est Dieu. Mais nous allons voir plusieurs passages qui nous montrent clairement que Jésus-Christ est Dieu. Les hommes sont troublés parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène, ils ne comprennent pas ce mystère. Que celui-ci puisse être le Fils, qu'il puisse être en chair, mais qu'il puisse aussi être Dieu. Alors parce qu'ils ne comprennent pas, ils préfèrent choisir ce qui leur arrange. Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre, mais il nous a simplement demandé de lui faire confiance. Et quand on fait confiance à une personne, on ne cherche pas à comprendre tous les détails. On se contente de ce qu'il nous dit, parce que nous croyons qu'il est digne de confiance. Le Seigneur nous a présenté les choses comme ça, ayant confiance que nous connaîtrons tout au moment où Dieu l'aura choisi, où Dieu l'aura voulu. Mais pour l'instant, acceptons les choses telles qu'elles nous ont été données. Et comme l'apôtre Paul dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est ça la promesse du Seigneur. Si ce que nous avons reçu dès le commencement, dès le jour où nous avons confessé que Jésus-Christ était notre Seigneur et Sauveur, dès le jour où le Seigneur nous a touchés, ce que nous avons reçu, c'est ça que nous devons conserver. C'est dans cette parole-là que nous devons demeurer, et cette parole-là doit aussi demeurer en nous. Que rien ne vienne nous l'enlever, bien-aimés. Nous restons toujours dans l'épître de Jean, nous allons au chapitre 4. À partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Attention, attention, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et l'apôtre Jean va nous donner encore une indication. Il dit, voilà comment vous pouvez discerner, entre autres, celui qui est de Dieu et celui qui est de l'Antéchrist. Il dit que celui qui se déclarera publiquement que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là est de Dieu. Notre espérance se trouve dans une réalité, c'est que Jésus-Christ était 100% homme. Jésus-Christ était 100% homme. Et même ça, des chrétiens ont du mal à le croire, que Jésus-Christ était 100% homme. Ils ont du mal à le croire parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ n'a jamais péché. Alors pour eux, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un qui est homme ne peut pas pécher? Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, n'a pas péché. Si la Bible le dit, alors certainement que c'est vrai. Celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, c'est celui-là qui est l'Antéchrist. Certains disent que Jésus-Christ n'était pas en chair, que ce n'est pas lui qui a été crucifié, on a crucifié quelqu'un à sa place. Lui, il a été enlevé parce qu'il était Dieu. Toutes sortes de théories, toutes sortes de philosophies pour changer la nature de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est venu en chair. Et nous savons que lorsque nous parlons de la chair, cela fait rapport automatiquement à l'homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu en chair. Et que celui qui refuse d'accepter ça, que Jésus-Christ était homme, eh bien, il est animé de l'esprit de l'Antéchrist. Et certains le disent pour nous éloigner et nous faire sortir. Jésus-Christ est l'élément et la porte du salut. Et la clé du salut, bien-aimé. Si on nous enlève la clé, par quel moyen allons-nous passer par la porte ? Si on nous enlève l'élément qui nous permet d'ouvrir ce qui doit être ouvert, comment allons-nous passer de l'autre côté? Si nous savons, bien-aimés, que nous devons traverser la mer pour aller soit en Angleterre, mais que le bateau qui devait être présent coule, bien-aimés, comment allons-nous aller de l'autre côté? Si le moyen, l'élément qui devait nous permettre de passer de l'autre côté, on nous l'enlève, alors comment allons-nous atteindre l'autre côté? Si ce que Jésus-Christ est selon la parole de Dieu est changé selon les hommes, comment allons-nous atteindre le Père? Puisque la Bible nous dit que nous avons été sauvés pour la vie éternelle. Jésus-Christ est mort afin que nous ayons la vie éternelle. Mais le Seigneur dit que cette vie éternelle ne peut être accessible qu'en passant par lui. Mais si celui-là, Jésus-Christ, est changé, celui qui est le moyen pour nous amener au Père n'est plus tel qu'on nous l'a présenté, comment allons-nous aller jusqu'au Père? Si ce Jésus auquel nous avons cru, on nous dit finalement celui en qui vous avez cru, ce n'est pas lui, il n'est pas comme ça, il est plutôt comme ça, alors comment allons-nous accéder au Père? Notre espérance se trouve dans l'identité de Jésus telle qu'on nous l'a présentée. Et la Bible nous dit qu'il est venu en chair. La Bible nous dit qu'il est venu avec l'apparence d'homme, il est venu en homme. Jésus-Christ était 100% homme. Et ça doit être une réalité pour nous. Que personne ne nous enlève ça. Que personne ne nous fasse croire autre chose. Parce que si le moyen n'est plus Jésus-Christ, cela veut dire, bien aimé, que la porte est ouverte à toute chose. Si Jésus-Christ n'est plus le moyen pour atteindre le Père, cela veut dire que toutes les religions qui existent, finalement, sont tous valables. Puisque toutes permettent, plus ou moins, selon eux, d'arriver au ciel. Donc ça veut dire que finalement tout le monde a raison. Donc chacun d'entre nous, demain, peut se lever, créer sa propre théorie pour arriver au ciel, créer sa propre religion, créer son propre mouvement, créer sa propre doctrine pour arriver au ciel. Et là, ça va devenir un véritable désordre. Parce que certains, dans leur doctrine, diront que le viol est autorisé. Certains diront dans leur doctrine, comme je l'ai entendu, comme on me l'a enseigné autrefois, que si tu voles pour manger, ce n'est pas grave, Dieu n'en tient pas compte. Parce que tu as volé pour manger, tu n'as pas volé pour faire du mal. Voilà, donc certains vont publier ça ouvertement. C'est déjà le cas dans une certaine religion. Donc, ça va être ouvert. Donc, imaginons bien aimé, quel désordre ça va être. Si chacun vient avec sa propre loi et sa propre doctrine. Mais puisque Dieu est un Dieu d'ordre, il faut qu'il y ait une seule voie, une seule véritable voie. Afin que ceux qui sont de Dieu puissent demeurer dans cette voie et que la différence puisse se faire avec toute autre chose. Il faut qu'il y ait une différence. Et pour qu'il y ait une différence, il faut forcément qu'il y ait quelque chose de vrai et qu'il y ait autre chose de faux. Mais si finalement tout est vrai, alors finalement c'est la fête, c'est le désordre et c'est tout ce qu'on veut. Nous voyons déjà bien aimé que lorsque l'homme refuse de se conformer aux lois établies dans un pays, de se conformer aux règlements, nous voyons le désordre que ça fait déjà. Nous voyons lorsque les gens refusent de respecter le code de la route, nous voyons le nombre de morts que ça fait chaque année en France. Pourquoi? Parce que c'est le désordre. Si chacun a dans sa tête sa propre idée du code de la route, alors nous n'allons même plus pouvoir conduire et encore peut-être même moins circuler à pied. Parce que certains vont rouler sur les trottoirs, vont faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un seul code pour qu'il y ait une même orientation afin que les choses soient bien organisées. Et Dieu est lui très très bien organisé, alors il nous a facilité les choses en mettant une seule voie. Et cette voie-là ne passe que par Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte du salut. Mais ce Jésus, tel que Dieu nous l'a présenté. Parce que comme on l'avons dit, beaucoup se disent être le Messie. Certains sont venus avant nous, se sont dit être le Messie. Mais la réalité, nous la connaissons, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont dans le tombeau. Mais Jésus-Christ seul est ressuscité. Donc c'est là l'assurance que nous avons, que le Jésus qu'on nous a présenté, c'est ce Jésus-là que nous devons accepter, sans n'ajouter ni retrancher. Nous lisons encore un autre passage, Hébreux chapitre 4. À partir du verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà ce que dit Paul. Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans l'évangile que nous avons cru. Celle que nous proclamons, celle que nous vivons, celle que nous témoignons. L'apôtre dit, témoignez ferme dans cela. Témoignons ferme dans cela. Donc, demeurons fermes dans cela. Et l'apôtre est conscient de la souffrance que cela peut manifester de la souffrance que cela peut nous amener à éprouver, entre autres les moqueries, la persécution. Mais il dit « demeurez ferme » parce que c'est ça la vérité. La foi que vous avez choisie, c'est ça la vérité. Et il nous invite à demeurer ferme en se souvenant que Christ aussi a souffert à cause de cette même foi. Il est écrit dans 1 Pierre 4 que « Christ ayant souffert dans la foi, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Si Christ a souffert, soyez conscient que vous souffrirez aussi d'une certaine manière comme votre maître. Et là, l'apôtre dit « tenez ferme, même si c'est difficile, sachant que le Seigneur a subi les mêmes choses que nous. » Pourquoi ? Parce qu'il était aussi homme. Il a été tenté comme nous. Il a eu les mêmes faiblesses que nous. Mais il n'a point péché. Ce qui veut dire que le Seigneur connaît les souffrances que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il connaît les difficultés auxquelles nous sommes éprouvés. Il connaît la souffrance lorsqu'on perd un ami, lorsqu'on perd un parent. Il connaît les difficultés que de demeurer honnête dans une société qui est pourrie. Il connaît toutes ces difficultés-là. Et la Bible dit que lui, il a tenu et il n'a point péché. Mais il a été éprouvé et tenté de toutes sortes de manières comme nous. Il y a des chrétiens qui pensent quelquefois être les seuls à souffrir. Ils ont l'impression que les autres sont tout le temps heureux. Ils ont l'impression que les autres souffrent moins, que l'épreuve qu'ils vivent est beaucoup moins grande. Bien-aimé, c'est faux. Nous sommes tous éprouvés d'une certaine manière. Nous sommes tous combattus d'une certaine manière. Et puisque le Seigneur même l'a été, alors comment nous ne le serions pas? Notre consolation ne doit pas se trouver dans le fait que j'ai l'impression de souffrir moins que l'autre. J'ai l'impression que mon épreuve est moins dure que l'autre. Notre identification doit être faite par rapport à Jésus-Christ. Nos souffrances doivent être mesurées par rapport à Jésus-Christ et non pas par rapport aux frères ou aux chrétiens qui se trouvent à côté de toi, que tu peux jalouser mais sans connaître véritablement ce qu'il y a dans son cœur, sans connaître véritablement ce qu'il a vécu autrefois. Tu regardes simplement avec tes yeux dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui et tu as l'impression qu'il est favorisé. La réalité, c'est que nous devons nous identifier par rapport à Jésus-Christ. Et la Bible dit que ce Seigneur-là a été tenté aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était homme. Il a éprouvé les mêmes souffrances que nous. Bien-aimés, est-ce que Dieu peut souffrir comme un homme ? Dieu ne souffre pas comme un homme. Pour souffrir comme un homme tel que nous souffrons aujourd'hui, il faut être homme pour véritablement comprendre. Mais Dieu s'est mis dans la peau d'un homme afin de souffrir ce que nous souffrons encore aujourd'hui. Pour être tenté comme nous sommes tentés aussi aujourd'hui. Jésus-Christ est venu en chair, c'est une réalité. Il a été tenté comme nous le sommes, c'est une réalité, parce qu'il était 100% homme. Que personne ne change sa bien-aimée, qu'on ne nous dise pas le contraire, Jésus-Christ était 100% homme. Nous allons prendre quelques passages dans l'Évangile qui nous montrent, bien que Jésus-Christ était comme nous, qu'il a été affaibli aussi comme nous, Jean chapitre 4, et nous allons voir aussi plusieurs passages qui nous montrent qu'il était aussi Dieu. Nous ne pouvons pas tout expliquer, mais nous croyons aux Écritures telles que le Seigneur nous les a données. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est quel Dieu bien-aimé qui peut avoir soif ou qui peut être fatigué? Seul un homme peut éprouver cette sensation-là, de fatigue et de soif. Après avoir marché des kilomètres, la Bible dit que Jésus-Christ était fatigué. Il était fatigué parce qu'il était homme. C'était un homme. La Bible nous dit que cette femme, lorsqu'elle est venue, il lui a demandé de l'eau, mais parce qu'il avait soif. Et nous savons que lorsque nous marchons sous le soleil, lorsqu'il fait chaud, mais bien entendu, bien aimé, que le sentiment de soif se manifeste. La soif est là. Pourquoi ? Parce que nous sommes des hommes. Et étant des hommes, nous sommes limités physiquement. Et le Seigneur était assis parce qu'il était fatigué. Étant sur la terre, il était aussi limité physiquement, comme nous le sommes aujourd'hui. Parce que c'était un homme. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il éprouve les mêmes tentations que nous. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Il devait venir en chair. Il devait venir comme un homme. Et ce passage nous montre clairement que Jésus-Christ était aussi comme nous. Il était un homme. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a éprouvé la fatigue. Nous nous souvenons que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané en train de prier, la Bible nous dit que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang. Donc il était dans un niveau d'anxiété qui était très très élevé. Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme. Nous nous souvenons qu'il a prié. Mais il a dit, mais Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a été tenté de renoncer. Il a été tenté dans sa faiblesse à abandonner la mission. Mais il s'est souvenu que ce qui était important, c'était de faire la volonté de Dieu. Comme nous le sommes quelquefois, lorsque nous sommes éprouvés et que nous voulons soit pécher, que nous voulons soit faire demi-tour, que nous voulons baisser les bras. Mais ça nous arrive aussi de dire, Seigneur, j'accepte parce que c'est toi. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur a été tenté comme nous. Donc lorsqu'on parle de souffrance, bien-aimés, soyons certains que le Seigneur comprend ce que nous pouvons éprouver. N'ayons pas cette impression-là que Dieu est loin, que Dieu est comme étant sans pitié, que comme si Dieu ne comprenait pas lorsqu'on priait, comme si Dieu ne comprend pas lorsque l'on pleure. Il a été éprouvé comme nous. C'est pourquoi il dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Le Seigneur sait lorsque nous crions et que dans notre cœur, nous sommes comme des malheureux. Le Seigneur connaît cela. Il sait ce que nous vivons de difficile. Il connaît cela. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait des promesses qu'un jour il essuiera toute larme? C'est parce qu'il est conscient des souffrances que nous pouvons éprouver sur la terre. Il est conscient des difficultés que nous pouvons éprouver sur la terre. Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il a expérimenté cela. Il a dit, je m'en vais. Vous êtes dans la tristesse, mais je reviendrai, je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous ravir. Viendra un temps où le Seigneur essuiera toute larme. Les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir. Le Seigneur est conscient parce qu'il a vécu dans sa chair ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque nous prions le Seigneur, soyons conscients, bien-aimés, que le Seigneur entend et il comprend clairement, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit que même lorsque nous ne savons même pas exprimer, n'arrivons pas à exprimer, mais par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit lui communique à Dieu. Parce que Dieu connaît au-dedans de nous, même lorsque les mots sont difficiles à sortir, puisqu'il a souffert aussi, il comprend ce que nous voulons dire. Il sait la souffrance que nous endurons, il connaît ces réalités-là, bien-aimés. Soyons dans la paix et soyons dans la joie de connaître cette réalité-là. Que lorsque nous parlons à notre Seigneur et que nous sommes tristes, il est conscient de cela parce qu'il a vécu ces mêmes choses. Nous voyons, bien-aimés, quelquefois lorsque des personnes ont vécu des temps difficiles ensemble, il y a une certaine solidarité qui se fait. Pourquoi ? Parce que sans même dire un mot, on comprend les uns et les autres les souffrances. Ceux qui ont vécu la guerre ensemble, ceux qui ont été peut-être devenus handicapés suite d'un accident de la route, il peut comprendre ce que éprouve l'autre réellement parce qu'il a vécu les mêmes choses. Et le Seigneur, c'est la même chose. Il peut comprendre ce que nous lui disons parce qu'il a vécu les mêmes choses. Il était aussi homme, comme nous, bien-aimés. Il a vécu la même chose. Il était fatigué, il a eu faim, il a eu soif. Il a été éprouvé comme nous. Nous lisons encore notre passage, Luc chapitre 8. À partir du verset 19. Luc 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. On dit d'abord, Jésus, il y a tes frères et ta mère qui te demandent. Est-ce que Dieu a un cousin ou bien une mère, ou bien des frères. Dieu existe par lui-même. Il a fait toutes choses. La Bible dit qu'il n'avait pas de conseiller. Mais là, on dit Jésus, mais il y a ta mère et tes frères qui te demandent. Comment pouvait-il avoir une mère et des frères? Mais c'est parce qu'il était aussi homme. Lorsqu'on parle de frères et de mères, c'est parce qu'on fait référence aux hommes. Ce langage-là n'existe pas pour Dieu. Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de frère ou de sœurs. Comme certains semblent le manifester quand Dieu fait comme du favoritisme, soi-disant. Dieu n'a pas de cousin ici parmi nous. Il n'a pas de frère ici parmi nous. Mais pour qu'on dise au Seigneur, voici ta mère et tes frères te demandent, il fallait qu'il soit homme. Il fallait qu'il soit identifié aux hommes pour qu'on puisse dire qu'il a une mère, qu'il a des frères et des sœurs. Ensuite, la Bible nous dit qu'il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Il monte dans la barque et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dort. Or, la Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dieu ne connaît pas la fatigue. Il ne connaît pas le sommeil. Il n'est pas éprouvé comme nous sommes éprouvés. Mais pourtant, là, la Bible dit que Jésus-Christ s'endormit. Pourquoi a-t-il dormi? Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme. Mais voici, il était aussi Dieu. Alors que les disciples étaient apeurés, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont réveillé le Seigneur. Nous allons mourir. Le Seigneur a dit, gens de peu de foi. Il a calmé la tempête. Les disciples étaient étonnés. Mais c'est qui celui-là à qui même le vent et la tempête obéissent? Qui fait du vent son messager si ce n'est Dieu lui-même? Qui peut commander à la tempête de se calmer si ce n'est celui qui en est l'auteur? Jésus-Christ était homme, mais il était aussi 100% Dieu. Beaucoup de religions dites chrétiennes refusent d'admettre que Jésus-Christ est Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais finalement, en quel évangile nous avons cru? Notre espérance est à terre, notre espérance est foutue, puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais si on nous enlève ce côté-là de l'identité du Seigneur, ce côté Dieu, finalement, le Jésus auquel nous croyons n'est plus le vrai Jésus. Parce que le Jésus de la Bible, il est aussi Dieu. Par quel moyen il est Dieu, ça ne nous regarde pas. Il est Dieu parce que Dieu a dit qu'il est Dieu. Silence et la tempête s'est calmée. Qui peut commander à la tempête de se calmer si ce n'est Dieu lui-même? A-t-on déjà vu ou entendu un homme dire silence et la tempête se calme? Les disciples étaient étonnés. Mais qui est celui-là à qui même obéissent le vent et la tempête? Les disciples connaissaient bien l'eau, c'était des pêcheurs pour certains d'entre eux. Ils avaient certainement vu de leurs propres yeux des tempêtes, mais ils n'avaient jamais vu quelqu'un calmer la tempête. Parce que ce quelqu'un-là n'était pas simplement homme, mais il était aussi Dieu. Le Jésus auquel nous avons cru est aussi Dieu. Et l'apôtre Jean nous le dit dans la première épître au chapitre 5, verset 20, il dit que nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en ce que nous connaissons que le véritable, justement, c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça le véritable. Il est Dieu. Il n'y a pas, je dirais, d'autres mots pour expliquer peut-être demi-Dieu. Non, il est Dieu à 100%. Il a calmé la tempête, nous connaissons les épisodes où il a multiplié les pains. Qui d'autre pouvait faire ça si ce n'est Dieu? Par l'autorité qu'il avait, certains des pharisiens ont même reconnu. La Bible dit, mais ils ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils ont reconnu que dans Jésus-Christ, il était vraiment ce qu'il prétendait être. Mais la Bible dit qu'ils ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils ont choisi leur camp. Ils ont préféré voir Jésus-Christ comme un simple homme. Ils ont refusé de voir en lui la véritable identité qu'il avait. Le Messie, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Ils ont pris le Jésus qu'ils ont choisi. Ils ont voulu le regarder comme eux voulaient. Ils n'ont pas voulu le regarder comme Dieu l'avait manifesté. Nous devons accepter Jésus tel que Dieu nous l'a manifesté. Sans tout comprendre, mais avec l'assurance que véritablement Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous lisons à partir du verset 31, alors que Lazare est mort déjà depuis 4 jours, les gens sont en train de se lamenter et en train de pleurer parce que Lazare est mort. Et les gens savaient que Jésus-Christ aimait Lazare. Au verset 31, nous est dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus, ému de compassion lorsqu'il a vu tout ce peuple en tristesse devant le tombeau de Lazare, qui était mort déjà depuis 4 jours. Et Marthe dit, mais en plus, il sent déjà. Le Seigneur dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus pleura. Ils l'ont vu pleurer. Il était ému, il était touché de voir ce peuple-là. C'était un homme, comme nous l'avons lu, qui a été tenté comme nous, qui a eu part aux mêmes souffrances que nous. Mais il était aussi Dieu. Lorsque le Seigneur décide de ressusciter Lazare, il dit, Père, je prie, non pas à cause de moi. Je prie simplement à cause d'eux, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare sortit. Qui d'autre peut ressusciter les morts? C'est vrai que le Seigneur peut utiliser chacun d'entre nous pour exprimer une prière au moment où Dieu l'aura décidé un jour pour guérir une personne, pour ressusciter un mort. Le Seigneur peut le faire. Mais Jésus-Christ dit, j'ai prié ainsi. Il a prié ainsi à haute voix, seulement pour eux. Je le fais pour eux afin qu'ils croient. Le Seigneur, lui, savait qui il était. Mais ces personnes-là doutaient encore de l'identité du Seigneur. Comme les disciples ont douté en se disant, mais qui est celui-là qui parle même au vent et à la tempête? Donc cette interrogation montre bien que les disciples n'avaient pas encore foi totalement que celui-là était Dieu. Ils étaient encore dans le doute. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, mais gens de peu de foi. Et là, lorsque le Seigneur dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a parlé à Josué, il a dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Donc nous pouvons comprendre que lorsqu'on dit, ne t'ai-je pas dit, ça sous-entend que je te l'avais déjà dit, mais tu ne refuses de comprendre encore. Tu refuses quoi? Mais je te l'ai déjà dit. Il a dit, je le fais, Père, à cause de ces gens-là. Moi, je n'ai pas de problème. Je sais que je peux demander à ce mort de sortir, il sortira. Mais afin que ces gens-là sachent, Seigneur, que c'est toi qui m'as envoyé. Je vais le faire. Ils étaient dans une révélation partielle. Non pas parce que le Seigneur leur avait caché, mais parce que leur cœur était lent à croire. Lorsqu'on cherche à tout comprendre, comme on pourrait comprendre des formules de mathématiques, les choses deviennent de plus en plus compliquées avec le Seigneur. Dieu n'est pas un prof de mathématiques ou bien n'est pas une équation pour qu'on cherche à le comprendre de cette manière-là. Il veut qu'on puisse le comprendre simplement comme des enfants. Parce qu'il a dit, croyons que les choses sont ainsi. Ce même état dans lequel étaient les Juifs à ce moment-là, c'est dans ce même état dans lequel est resté Thomas jusqu'à la fin. Les gens lui ont dit, mais nous avons vu le Seigneur et ressuscité. Il a dit, si moi je ne vois pas, si je ne touche pas, que je ne mets pas mon doigt, moi je ne croirai pas. Le Seigneur est apparu, il a dit, mais Thomas, viens, mets ton doigt maintenant. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et qu'est-ce que Thomas va confesser? Mon Seigneur et mon Dieu. Il l'a confessé. Est-ce que c'était un autre Jésus? Est-ce qu'en étant ressuscité, il avait une autre nature, c'était une autre personne? Jésus-Christ est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais là, Thomas a confessé, mon Seigneur et mon Dieu. Il l'appelait déjà Seigneur lorsqu'il était parmi eux, avant sa mort. Mais lorsqu'il est venu et qu'il a véritablement touché, il a dit, il a confessé, mon Dieu. Mais il a toujours été Dieu. Il a toujours été Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole est descendue à l'habiter parmi les siens, et son peuple l'a rejetée. Et cette lumière est venue dans le monde. Et la Bible dit qu'elle a donné le pouvoir à tous ceux qui ont cru en cette lumière, tous ceux qui l'ont acceptée, tous ceux qui l'ont reçue, de devenir enfants de Dieu. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Thomas a vu cette parole-là. Il a vu et il a confessé, mon Dieu, Jésus-Christ véritablement est Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais que personne ne nous change notre Jésus, bien-aimé. Que personne ne nous change notre Jésus. Nous clôturons avec 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui et de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. C'est un mystère, bien-aimé, qui est trop grand pour l'homme. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et il a été en son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ était semblable à Dieu, il était égal à Dieu. Alors, allons-nous changer l'évangile parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse? Allons-nous changer l'évangile parce que nous n'avons pas tout compris? Ceux qui ont essayé de le faire aujourd'hui sont dans l'égarement total. Il n'y a pas un iota qui passera de la parole de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, bien-aimés, certains sont venus avant nous, d'autres viendront après nous. La parole de Dieu restera toujours la même. Elle restera toujours la même. Jésus-Christ est ce qu'il est. 100% homme, 100% Dieu. C'est un mystère qui est grand, mais les choses sont ainsi. Et nous devons les accepter ainsi. Que personne, bien-aimé, ne nous fascine comme l'église de Galates a été fascinée. Que personne ne s'introduise au milieu de nous et nous présente un autre Jésus que nous avons connu dans la parole de Dieu. Que nous ne laissons pas abuser, que nous ne suivons pas, bien-aimé, toute personne qui prétend aimer Dieu, mais ne pas avoir de rapport avec Jésus-Christ et le considérer comme un frère, le considérer comme si nous avons le même Dieu. C'est faux. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est ce Jésus-là que la Bible nous a annoncé. Et c'est en ce Jésus-là que nous avons cru, parce que c'est en ce Jésus-là que se trouve l'espérance de la vie. Sans Jésus, tel qu'il est, tel qu'il a été manifesté, nous ne pouvons pas, bien aimé, connaître le Père. Or, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ est vivant, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur de gloire, béni sois-tu, Seigneur. Ce matin encore, nous confessons ta souveraineté, Seigneur. Et dans ta souveraineté, Seigneur de gloire, tu nous as présenté les choses telles qu'elles sont. Et nous ne voulons rien changer. Nous ne voulons rien ajouter, nous ne voulons rien retrancher. Nous croyons, Seigneur de gloire, en ta parole. Quand bien même nous ne comprenons pas toutes choses, nous croyons en ta parole telle qu'elle a été manifestée. Véritablement, tu es Dieu. Véritablement, tu es le Fils de Dieu. Véritablement, tu es mort et ressuscité. véritablement, tu es le Messie, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, de nous avoir aidés, permis de croire en cela, Seigneur de gloire, comme des enfants. Ce matin, Seigneur de gloire, nous nous sommes levés, Seigneur de gloire, avec la certitude que tu es Dieu, avec la certitude que tu es le Fils de Dieu, avec la certitude que tu étais homme, Seigneur. Et nous repartons de ce lieu, Seigneur, avec cette même certitude. Nous te bénissons pour cela parce que nous croyons que cela est une grâce qui vient de toi, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur de gloire, par notre propre intelligence que nous avons pu accepter ces choses-là. Tu nous as emmenés, Seigneur de gloire, à nous humilier. Et nous croyons en ta parole, Seigneur, telle que tu nous l'as donnée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à demeurer, Seigneur Dieu de gloire, dans cet état. Aide-nous, Seigneur de gloire, à demeurer dans cette foi et que cette foi demeure en nous, Seigneur. Selon que tu as dit, celui qui vaincra, tu le feras asseoir avec toi. Seigneur, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et nous voulons, Seigneur, aussi combattre le bon combat. Gardez, Seigneur de gloire, ce que nous avons reçu et entendu dès le commencement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons cru en toi parce que tu t'es manifesté à nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur de gloire, garder cette révélation, Seigneur, que tu es Dieu toi-même, que tu étais homme, Seigneur de gloire, tu es venu en homme, tu es venu en chair, Seigneur. Nous voulons garder cela et défendre, Seigneur, cette vérité, au nom de Jésus. Nous voulons défendre cette vérité, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous croyons que tu es ressuscité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et au travers de ces chants, Seigneur de gloire, nous voulons le confesser, Seigneur. Je crois en Jésus. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia.